Nutri Radio présente le Nutri Talk Gala. Pour la troisième année consécutive, le Nutri Talk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnels pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Avec notamment Fabrice Denis, professeur, chercheur associé au CNRS, expert en IA et médecine de longévité. Stéphane Résimont, médecin spécialisé en médecine intégrative, expert en hormonologie et micronutrition. Le Nutri Talk Gala, samedi 13 juin. À l'Élysée Biarritz, à Paris. Programme complet, intervenants et renseignements sur nutritalkgala.fr.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Bonjour Célia.
Bonjour Fabrice.
Célia Morès, le soleil. Ah, vous avez la pêche. Vous avez la pêche, je le sens.
Bah oui, parce qu'en fait, plus ça approche, plus c'est le printemps qui est là, les beaux jours, les températures qui augmentent. On va plutôt vers ce temps-là que vers l'hiver. Donc voir le soleil, entrevoir le soleil, ça me réjouit toujours et effectivement, ça me donne la pêche.
Oui, alors même vous, j'ai pas l'impression que votre habitude, c'est de faire la crêpe au soleil. Moi, j'ai l'impression que vous fuyez un peu le soleil.
Donc ça, j'aime bien de temps en temps faire la crêpe. Mon petit plaisir l'été, c'est aller à la plage, au soleil, avec un bon bouquin et lire tranquillement au soleil pour profiter des apports de la vitamine D.
D'accord. Ben moi, comme je vois tout le temps habillé en noir, je sais pas, je vous imagine dans des temples, à l'abri du soleil, dans des endroits un petit peu, voilà, à l'abri de tout ça. Mais non, pas du tout. Donc très bien. Ça nous permet de savoir que vous aimez finalement aussi des plaisirs simples comme prendre le soleil, mais en se protégeant évidemment, hein, parce que là, faut pas non plus, parce que vous avez un teint de jeune fille, il faut le dire, donc se dit que vous ne vous exposez pas au soleil. Célia, je pensais que vous alliez me dire que vous alliez bien parce que le Nutri Talk Gala approche, mais pas du tout.
Donc, ça aussi, bien sûr, mais ça c'est une évidence. C'est le 13 juin, il faut absolument y aller. Parce qu'évidemment, c'est le plaisir de retrouver les professionnels, les collègues aussi de Nutri Radio, la bonne ambiance et de joindre, j'allais dire,
l'utile à l'agréable.
L'utile à l'agréable, voilà. C'est-à-dire les connaissances scientifiques, d'acquérir de nouvelles connaissances scientifiques, donc de faire travailler son cerveau et ses petits neurones, sa petite matière grise, comme dirait Hercule Poirot, mais en plus de joindre l'agréable, puisque c'est aussi le plaisir de faire la fête dans une bonne ambiance, tous ensemble. Donc,
c'est le 13 juin. L'événement. Exactement, c'est l'événement le 13 juin du fond et du fun à l'Élysée Biarritz à Paris cette année, et c'est plein, hein, c'est plein, mais rassurez-vous, on essaiera de vous faire suivre ça avec des petites séquences comme on l'a fait pour l'édition précédente qu'on vous diffusera en exclusivité sur Nutri TV. Bien, on va continuer la conversation que nous avions entamée il y a quelques semaines sur l'intelligence artificielle. Vous avez abordé les conséquences sur le cerveau, cet usage un peu intempestif qui se substitue à nos pratiques. À nous, on va pas dire voilà, on va confier une mission à l'IA, et à force de la confier à l'IA, bah, peut-être que dans quelques temps on s'est dit on saura plus la faire nous-mêmes. Et c'est vrai qu'il y a des conséquences sur le cerveau. Et cette émission, eh bien, on va plutôt s'attarder sur les bonnes pratiques aussi, sur les facteurs de prévention.
Totalement. Alors, c'est vrai qu'il y a des facteurs de vulnérabilité et de protection, on va dire, quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle. L'âge est un facteur de vulnérabilité, c'est-à-dire que la population qui est le plus à même d'être à risque pour tout ce qui est, tout ce que nous avons vu il y a quelques semaines sur les conséquences négatives au niveau de la cognition, c'est-à-dire de nos performances intellectuelles, de l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est les 17-25 ans. Alors, pourquoi les 17-25 ans sont plus à risque? Eh bien, tout simplement, souvenez-vous, je vous avais parlé que l'intelligence artificielle pouvait avoir un impact négatif sur les connexions synaptiques au niveau d'une région cérébrale qui est le cortex préfrontal. Cortex préfrontal qui nous permet de traiter l'information, d'analyser, de peser le pour et le contre, de prendre une décision. Or, chez les 17-25 ans, le cortex préfrontal n'est pas encore arrivé à maturation. Il faut bien se souvenir que notre cerveau, dans la plupart des études, c'est l'âge qu'il donne, donc en tous les cas, arrive à maturation à l'âge de 25 ans, et la région cérébrale qui arrive à maturation la plus tardivement, le plus tard, est le cortex préfrontal. C'est pour ça qu'on dit que les adolescents peuvent parfois prendre moins bonnes, entre guillemets, décisions que les adultes, parce qu'ils sont plus preneurs de risques, ils sont plus impulsifs. Pourquoi ? En raison du fait que ce cortex préfrontal ne soit pas encore totalement mature au niveau neurobiologique du terme. Donc, ce qui veut dire que puisque la région est encore en développement, on va impacter le développement. Chez un adulte, la région est déjà développée. Donc, c'est que des connexions qui se défont ou qui peuvent éventuellement, bien évidemment, ensuite se refaire. Mais quand la région est en développement, cette région cérébrale est en développement, l'impact va être encore plus négatif. Hein. C'est ce qu'on disait aussi à l'époque. Il y a eu des études menées sur tout ce qui était addiction et on s'était rendu compte que dans les répercussions des addictions, même lorsque la personne était sevrée, les répercussions négatives étaient plus importantes chez les adolescents que chez les adultes. Pourquoi ? Parce que ça avait touché, impacté une région en développement. Donc, c'est en cela que nos jeunes vont être beaucoup plus vulnérables que cela, parce qu'aussi, ils vont avoir, comment dire, au niveau des compétences de métacognition, elles vont être moins développées. C'est quoi la métacognition ? C'est de pouvoir avoir soi-même un retour sur ses propres capacités cognitives, sur ses propres stratégies, etc., et de s'auto-évaluer soi-même. Ce cortex préfrontal qui n'est pas comme pour les addictions, hein, finalement, quand ça touche quelque chose qui est en développement, l'impact va être beaucoup plus important puisque ça peut empêcher que cette partie du cerveau se développe correctement. Donc, c'est en cela qu'ils vont être plus vulnérables. Leurs compétences métacognitives sont moins développées. Ces compétences métacognitives, c'est les compétences qui nous permettent d'adapter nos stratégies, de s'auto évaluer sur nos stratégies et de comprendre, en fait, finalement, de savoir où on en est cognitivement. Est-ce que je suis capable de faire cette tâche-là et d'avoir un retour sur soi, une auto-évaluation, on va dire. Donc, c'est moins développé chez eux. Donc, on comprend très bien que ces jeunes sont plus vulnérables que d'autres. Évidemment, il va y avoir le niveau d'éducation. Le niveau d'éducation peut être à la fois un facteur de vulnérabilité et ou un facteur de protection. C'est-à-dire que plus le niveau, et je parle bien d'éducation et non pas d'intelligence, d'éducation, plus le niveau d'éducation sera supérieur, moins la personne sera vulnérable à l'impact négatif de l'intelligence artificielle. Probablement, pourquoi ? Parce qu'elle fera toujours travailler, encore une fois, ses compétences d'évaluation critique, ses compétences métacognitives et le fait de traiter l'information. Cette personne continuera peut-être à traiter l'information et si c'est le cas, bien évidemment, ça va être un facteur protecteur de cette utilisation-là puisqu'elle va contrebalancer l'impact négatif de l'utilisation de l'IA que l'on peut remarquer chez des jeunes ou chez des moins jeunes avec toujours, toujours continuer à traiter l'information. Et ensuite, il va y avoir de quel type d'intelligence artificielle on utilise. Est-ce qu'elle maintient l'engagement actif ? Et c'est ça le plus important. Si l'intelligence artificielle, ça c'est protecteur, on utilise une intelligence artificielle qui maintient le traitement actif, l'engagement actif qui maintient le traitement de l'information et qui nous permet de traiter l'information au niveau cognitif, il y aura moins d'impact négatif, voire pas d'impact négatif, que si au contraire il n'y a pas d'engagement actif du tout et que c'est passif, qu'on est dans un engagement passif et qu'on demande à l'IA et qu'on prend, j'allais dire, mot pour mot ce que nous dit l'IA, qu'on le ressort, on va avoir cette sensation de savoir qu'on ne saura, et en fait on ne saura rien, on aura l'impression de connaître certaines choses, mais en fait on ne connaîtra rien puisque c'est l'intelligence artificielle qui aura les connaissances, mais pas nous. Parce que justement, suivant l'intelligence artificielle, il a quand même été montré qu'une intelligence artificielle bien conçue pouvait justement provoquer un gain d'apprentissage qui pouvait être même supérieur aux apprentissages traditionnels. Faut-il que l'intelligence artificielle soit utilisée à bon escient et qu'elle soit bien conçue. Il y en a des tas hein, qui permettent l'engagement actif. J'en ai utilisé dans la recherche. Je ne connaissais pas, c'est un de mes collègues qui m'en a parlé. Il y a un site qui s'appelle Recherche Rabbit, pour ne pas le citer. Hein. Et il permet quoi ce site ? Il ne va pas nous faire nos rapports à nos places. Hein. À notre place, pas du tout. En revanche, quand on a un article scientifique qui nous intéresse et qu'on a trouvé sur une base de données, et qu'on veut des articles similaires, ça nous permet de lui mentionner l'article, il va rechercher tous les articles similaires. Ce qui veut dire qu'au lieu de passer son temps à taper des mots-clés, à oublier des synonymes, parce que parfois, suivant le mot qu'on tape, même si c'est la même signification, mais pas tout à fait le même mot, la base de données ne trouve pas l'article, ça va nous permettre d'avoir des articles similaires qui traitent la même chose et de gagner du temps pour récupérer l'information. Mais pas nous traiter l'information, on traite en tant que chercheur toujours l'information, mais le fait d'avoir cette information à disposition, on a gagné quand même un temps fou, ce qui n'est pas négligeable lorsqu'on doit notamment même préparer des émissions pour Nutri Radio et qu'on veut beaucoup d'informations. Et bien, ça permet d'avoir toute la bibliothèque nécessaire pour pouvoir travailler dessus et critiquer et voir ce qui a pu être fait par les différents chercheurs et mettre, j'allais dire, comparer les différents articles et les différentes recherches des confrères, on va dire, ou de nos pairs.
On marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant sur Nutri Radio.
Découvrez Nutri TV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. Nutri TV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri Radio.
Célia Morès sur Nutri Radio, c'est quoi cette IA dont vous parliez? Research Rabbit?
Recherche Rabbit. Ah ben, Recherche Rabbit, j'ai découvert ça. Alors c'est vrai que c'est miraculeux. J'étais toute fière de moi de découvrir ça. Enfin, grâce à un collègue, c'est ce que je disais. On lui donne soit des mots-clés, il nous sort les articles avec des mots-clés, mais soit encore mieux. J'avais un article qui m'intéressait et je voulais trouver le même type d'article. Et en tapant les mots-clés sur les bases de données que l'on connaît, dont les chercheurs se servent, donc on a pour les citer PubMed, Google Scholar, Cerninfo, etc. Enfin, toutes celles qui sont réelles, c'est-à-dire pas du grand public, mais qui s'adressent aux chercheurs qui nous permettent d'accéder à des articles scientifiques. Eh bien, j'ai noté l'article, j'ai mis toutes les références de mon article, il m'a retrouvé cet article-là. J'ai tapé sur une fonction avec marqué similar, donc article similaire, et il m'a trouvé tous les articles similaires qui traitaient du même sujet. Ce qui m'a permis de refaire un tri, d'analyser les articles et d'éviter à avoir à chaque fois, c'est là une intelligence artificielle bien conçue, à taper des mots-clés. Pourquoi ? Parce que quand on est chercheur et qu'on tape des mots-clés, ou quand on fait une recherche, même pour les étudiants, parce qu'ils doivent construire un rapport scientifique, qui doivent lire des articles, on tape des mots-clés sur une base de données. Simplement, la base de données, elle est à la fois intelligente et un petit peu stupide. Elle va prendre en considération le mot-clé qu'on va mettre, mais pas les synonymes de ce mot-clé. Ce qui veut dire que suivant ce que l'on veut dire, il faut parfois utiliser plusieurs synonymes pour justement trouver un maximum d'articles, parce que sinon, la base de données recherche le mot en question, pas le concept. Là, ça permet évidemment d'aller encore plus loin, parce que justement, elle va chercher les articles similaires, donc qui traitent de la même chose, des mêmes données, et ça va nous permettre évidemment de gagner du temps. Moi, ça m'a permis pour certaines recherches, même pour certains cours, de gagner beaucoup de temps et de pouvoir avoir à disposition seulement les articles qui m'intéressaient. Après, j'ai fait d'autres recherches sur les autres bases de données, bien évidemment, c'était pas le problème. Mais en tous les cas, ça m'a permis d'avoir déjà un certain pool d'articles pour commencer à travailler mon cours sur le sujet qui m'intéressait réellement et ne plus avoir faire ce tri qui parfois peut être long parce que une base de données lambda va nous donner des articles intéressants et des articles moins intéressants pour le concept que l'on veut nous-mêmes définir. C'est en cela que c'est une intelligence artificielle, on va dire intelligente, qui permet de maintenir les connexions neuronales, et c'est là que ça va être important, c'est de pouvoir utiliser une intelligence artificielle qui nous permet d'avoir un engagement actif et non pas un engagement passif cet engagement passif va provoquer évidemment un impact négatif sur nos performances.
Donc ça, c'est les bons usages, c'est ce qu'il faut faire ?
Les bons usages, déjà, c'est au moins essayer de comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle, quelles sont les limitations de l'intelligence artificielle, quels peuvent être les apports de l'intelligence artificielle et quels sont les différents types d'intelligence artificielle. Donc, il faudrait presque former l'utilisateur à l'intelligence artificielle pour qu'il puisse comprendre et adopter un esprit critique vis-à-vis de ce que dit l'intelligence artificielle, qui peut se tromper. Parce qu'à partir des recherches sur Internet, parfois, elle peut se tromper. Donc, ça dépend de ce qu'on lui en demande. Il faut garder cet esprit critique qui nous caractérise, nous, en tant qu'humains.
Et d'ailleurs, excusez-moi, Célia, mais est-ce qu'aujourd'hui, on sait que la technologie a toujours un pas d'avance, mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas intérêt à intégrer dans les politiques d'éducation, dès le plus jeune âge, finalement, cet usage des cours d'IA, en fait, tout simplement, plutôt que faire des cours de trucs, on ne sait même plus à quoi ça sert?
Alors, oui et non. Oui, non dans le sens où, malheureusement, actuellement, les jeunes, on sait qu'il y a des baisses de performance dans certaines matières, et les matières principales, j'allais dire, maths, français, etc., qui nous permettent de bien fonctionner, qui sont nécessaires, il faudrait déjà qu'ils puissent les maîtriser. En revanche, évidemment, il y a des choses peut-être qui servent moins, et donner des cours d'intelligence artificielle, puisque de toute manière, ils vont s'en servir. Ils sont nés pour certains avec l'intelligence artificielle ou ils vont s'y mettre. Leur donner des cours pour les former à l'utilisation de l'intelligence artificielle serait une bonne chose. Ça va permettre de continuer à leur faire développer leur évaluation critique, hein, c'est-à-dire leur esprit critique, de maintenir leurs compétences, et ça va permettre qu'ils s'en servent à bon escient et qu'ils puissent alterner un travail avec l'intelligence artificielle, un travail qui va demander l'intelligence artificielle, qui va leur faire gagner du temps, mais aussi un travail sans intelligence artificielle qui va permettre de maintenir et de former les connexions neuronales. Et c'est là où c'est ce qu'il faut faire pour l'intelligence artificielle, apprendre à s'en servir et pouvoir alterner l'utilisation intelligence artificielle non-intelligence artificielle, comprendre comment elle fonctionne bien évidemment et toujours avoir cet engagement actif qui nous permet de faire travailler nos neurones, parce que c'est là le plus important, c'est continuer à faire travailler nos neurones pour qu'il puisse y avoir établissement des connexions synaptiques. Alors, qui sont indispensables à l'apprentissage.
Comment on les fait travailler ? Parce que là, clairement, voilà, on ne va pas se mentir, on est parti pour ne plus utiliser le cerveau comme auparavant, et donc on va forcément substituer des tâches, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc par quoi on peut substituer ? Donc c'est censé être du temps de gagner. Comment on peut créer de nouvelles connexions synaptiques si on n'utilise pas les mêmes procédés d'apprentissage qu'on a fait jusqu'à présent ? Parce que là, c'est aussi une question qu'il faut se poser. Comment on peut faire ?
Alors déjà, ça peut être tout simplement de demander à l'intelligence artificielle d'aller chercher certaines informations, notamment des articles ou des pages de bouquins pour les plus jeunes lorsqu'on est en primaire, collège, etc. Et pouvoir lire et synthétiser l'information, c'est-à-dire ne pas demander à l'IA « synthétise-moi l'information », mais demander à l'intelligence artificielle, lui poser une question qui est beaucoup plus longue finalement que des mots-clés que l'on peut taper sur les bases de données ou les moteurs de recherche, et demander à cette intelligence artificielle de trouver l'information. Et une fois que l'intelligence artificielle a trouvé l'information, de pouvoir lire ce qu'elle a trouvé comme information et de pouvoir soi-même synthétiser l'information. Ça peut être aussi, si on a demandé à l'intelligence artificielle qu'elle a fait un petit rapport, d'aller vérifier les informations données par l'intelligence artificielle en lisant soi-même les articles dont elle s'est servie, justement, les données, les articles dont elle s'est servie, les sources dont elle s'est servie pour construire ce rapport. Ça va être de continuer pour certaines choses à traiter soi-même l'information, à ne pas demander à l'intelligence artificielle, et pour d'autres à lui demander. Évidemment, pour écrire un email, ça, comme une lettre de motivation, par exemple, la mettre en forme. Ça peut être ne pas dire « écris-moi une lettre de motivation », mais ça peut dire « voilà, j'ai écrit ma lettre de motivation » ou « voilà les éléments que je veux qu'il y ait dans ma lettre de motivation », le balancer dans l'intelligence artificielle et à la limite demander une mise en forme qui soit un peu plus classe, va-t-on dire, un peu plus percutante que ce que l'on pourrait faire soi-même.
Il balance dans la tête. Être important. Voilà. On lui balance dans la tête.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, mais c'est ce que j'ai fait la dernière fois, je voulais écrire un email, et j'avais écrit un email, bon, il était bien hein, syntaxiquement, aucun reproche, mais je voulais qu'il soit plus percutant, ben, j'ai tout mis dans mon intelligence artificielle pour tester, et j'ai demandé, voilà ce que je veux dire, est-ce que vous pouvez m'aider à remanier pour que ce soit plus percutant ? Et on m'a remanié tout, et évidemment, la lettre était beaucoup plus percutante, avec des mots un peu plus forts. Mais c'était ce que j'avais fait, donc c'était ma réflexion. Et c'est en cela que ça peut être important, c'est de pouvoir utiliser les deux et surtout de pouvoir avoir un esprit critique et surtout de garder son esprit critique, parce qu'il y a une chose importante, c'est que l'IA ne va pas forcément être créative. Elle va utiliser les données disponibles sur Internet pour pouvoir répondre à la question qu'on lui pose. Mais la création, la créativité humaine, elle n'en aura pas puisqu'elle ne va pas créer quelque chose de nouveau. Elle ne va juste que transcrire ce qui existe déjà. Donc, c'est peut-être justement là encore où l'humain va pouvoir mettre sa patte, comme on dit, et on va pouvoir faire travailler nos plus jeunes pour pouvoir utiliser l'IA en développant leur esprit critique, leurs compétences métacognitives, hein, d'auto-évaluation, et surtout en continuant aussi à travailler pour certaines choses sans intelligence artificielle. Oui, pour trouver des articles et des notions, des sources pour réaliser un travail de recherche, non pour demander à l'intelligence artificielle d'écrire à sa place le travail de recherche.
Eh bien, merci beaucoup, très chère Célia. On va se retrouver très vite sur Nutri Radio, bien évidemment, émission à écouter, ou plutôt à réécouter même en podcast. Si vous venez d'arriver, eh bien, sachez qu'on la met directement directement sur la plateforme et sur toutes les plateformes de streaming. Au revoir Célia.
Au revoir Fabrice.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri Radio.